Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi 14 mars la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises, augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Cela représente la construction de plus ou moins 5000 km de routes, ont précisé les autorités congolaises. Pour ces dernières, cette signature permet entre autres d'y rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre la RDC et la SICOMINE, la société sino-congolaise créée pour l'occasion. En février 2023, l'inspection générale des finances de la RDC avait pointé du doigt un déséquilibre manifeste dans l'accord de 2008, révélant que les entreprises chinoises avaient généré des profits estimés à près de 10 milliards de dollars américains, alors que la RDC n'avait reçu en retour que 822 millions de dollars sous forme d'infrastructures. Le pacte de 2008 adopté le schéma d'échange minerai contre infrastructures. Que pensez-vous de la signature de ce contrat renégocié entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises? C'est le thème du dialogue entre Congolais. Dès ce lundi 18 mars 2024, participe au débat Georges Bokundu, député national, ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers, mandataire en mine et avocat. Maître Georges Bokundu, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique et stratège, je voulais dire. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Kouté.
Lems Kamonya est aussi avec nous dans ce débat. Il est analyste économique. Bonsoir Lems Kamonya.
Bonsoir Kelly.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
C'est désormais officiel. Le contrat renégocié entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises a été signé par toutes les parties jeudi 14 mars à la Cité de l'Union africaine. C'est en présence du chef de l'État. Cette nouvelle version consacre une hausse de l'enveloppe destinée aux infrastructures qui passe de 3 à 7 milliards de dollars américains. Cette nouvelle version marque ainsi le cinquième avènement de cette convention de collaboration conclue en avril 2008 entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises GEC en sigle. Cynthia Bachizi pour le détail.
La version New Look de cette convention, communément appelée contrat chinois ou encore contrat SICOMINE, rétablit un équilibre en le rendant réellement gagnant-gagnant à en croire les autorités de la RDC. Pour le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, environ 5000 km de routes seront construits sur une période de 15 ans. Il y aura 324 millions de dollars américains pour les infrastructures routières par an, ce qui permet donc de construire 400 km l'année. Le début des travaux est annoncé dans un délai d'un mois à Kinshasa, dans le Grand Équateur, au Kasaï oriental, dans le Haut Lomami et au Lualaba. Parmi les projets retenus à Kinshasa, c'est entre autres une route qui quittera la commune de la Gombe pour longer le fleuve Congo jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Quelques exemples à l'intérieur du pays, il y a notamment la route Mbujimayi-Kabinda-Kindu-Bukavu-Goma ainsi que la route Akula dans le Grand Équateur. Cet avenant consacre également la participation de la RDC dans le capital de la Soko Hydro, barrage de Busenga, en raison de 60% de départ pour les Chinois et 40% pour la RDC.
Merci Cynthia pour ce reportage. Georges Bokundu, je rappelle que vous êtes député national et ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers. Vous êtes mandataire en mine et avocat. C'est désormais officiel. Le contrat renégocié entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises a été signé par toutes les parties jeudi 14 mars à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. On se rappellera qu'en 2023, le président Tshisekedi avait jugé défavorable ce contrat. Il trouvait que c'était défavorable aux intérêts congolais, avait demandé sa révision, ces choses faites aujourd'hui. qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Qu'est-ce que vous pensez de cette renégociation?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le chef de l'État par sa détermination, parce que lorsque il a dénoncé publiquement qu'il fallait renégocier ses contrats, à un moment donné, on ne croyait pas que ça allait arriver. J'ai au moins une histoire. En 2008, quand ce fameux contrat a commencé, nous tous, nous avions apprécié et on croyait vraiment à une réalisation effective ou un changement en termes d'infrastructure de notre pays. Bon, malheureusement, presque 15 ans après, s'il faut noter, donc 15 ans déjà presque écoulés, nous n'avons pas vu ce qu'on croyait voir dans l'exécution de ces contrats. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et nous devons réellement apprécier. Et à l'époque, nous étions aussi très contents. Parce que c'était ce qu'on appelait contrat troc. Et que nous pouvions au moins bénéficier de nos infrastructures au lieu d'attendre des dividendes qu'on ne savait pas peut-être recevoir formellement. Il y avait toujours la crainte que peut-être des dividendes disparaissent souvent. Donc on attendait à voir nos infrastructures vraiment être améliorées. Donc cette détermination d'aujourd'hui du chef de l'État et de son gouvernement donne encore de l'espoir du fait que ce qu'on a critiqué hier, parce qu'on ne pouvait pas croire que même les Chinois pouvaient y gagner et que le Congo ne devait pas gagner. On devait toujours continuer dans l'espoir de voir ce qu'on s'était entendu en 2008 être réalisé. Je suis tout à fait d'accord et content que les chefs de l'État puissent arriver à faire aboutir ces négociations. Mais est-ce que on va encore se retrouver en 2008, 2010, et qu'en 2015, 16 et 17, on n'avait pas vu ces infrastructures? C'est maintenant faire suivre cet accord, l'actuel accord, avec des mécanismes stricts qui vont nous permettre de dire qu'effectivement, chaque année, les 324 millions vont être décaissés et être affectés dans la construction de ces infrastructures.
Quel mécanisme, par exemple, Georges Bukungu, vous savez,
un pays, quand vous voulez avoir ce que vous voulez, vous devez vous rassurer que le décaissement est fait. Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, c'est dans un mois. Nous sommes au mois de mars. Mm-hmm. Donc à la fin du mois d'avril, nous devons voir comment ces travaux vont commencer. Et qu'à la fin de l'année, donc au mois de mars de l'année prochaine, nous devons savoir qu'il y a eu effectivement les 324 millions qui ont été décaissés. C'est pas en vain. À l'inspection générale des finances, c'est pas en vain qu'on a d'autres structures, la Banque centrale, qui doivent savoir si réellement cet argent est mis à la disposition de la République pour faire ces infrastructures dans notre pays. Voilà un peu. Donc, je me dis, l'État a ses mécanismes de contrôle. Ici, on attend quelque chose. Nous attendons l'argent, nous attendons voir nos infrastructures. Et il faut réellement contrôler nos partenaires qui vont construire ces infrastructures. Ça ne doit pas être de la blague. Comme le chef a dit un jour lui-même, lorsqu'on doit faire un travail de route, on ne peut pas construire la route aujourd'hui, en 2023-24, et qu'avant même 2025, cette route est détruite. En dehors de voir l'argent, il faut aussi voir l'efficacité des réalisations qui vont être faites. Donc, moi, personnellement, dans cette première partie, je suis tout à fait d'accord. Et il y a eu effectivement des griefs qui ont été dénoncés dans ces contrats-là. Mais le plus grand problème, c'était le manque de volonté de la partie chinoise de réaliser ce que les pays attendaient.
Et ils ont Il y a un auditeur, oui. Shugen Kashinji, qui pense qu'il faut mettre en place un service technique pour faire le suivi et le suivi des travaux qui vont se faire sur place.
Il y avait tout au début, je crois, deux structures de suivi. Il faut aussi éviter qu'on ait une histoire parallèle à ce que les trésors publics doivent avoir aujourd'hui. Nous avions des services. Le risque, c'est de voir ces services commencer à se servir au lieu de servir d'abord les infrastructures que nous attendons. Donc, c'est très capital. Il y a des services de suivi des projets chinois. Mais maintenant, il faut les contrôler. Il faut que ces services soient réellement pour le contrôle de ces projets. Si c'est un service qui doit dormir, je suis vraiment désolé. ces services doivent avoir un monitoring, un système de monitoring de chaque mois. Qu'est-ce qui a été réalisé par mois? Parce que nous le faisons par an. Donc, dans les 12 mois, nous devons consommer 324 millions. Je pense qu'on ne va pas avoir encore ces...
On a un petit souci avec votre ligne téléphonique, Georges Bokundu. La réalisation va essayer de vous rappeler pour voir si la qualité de la ligne va s'améliorer. Al-Kitenge, analyste économique et stratège, beaucoup des Congolais ont salué ce contrat renégocié entre la RDC, les entreprises et le groupement des entreprises chinoises. Alors, quel avantage, hein? C'est une question que beaucoup de Congolais se posent. C'est vraiment quoi l'avantage dans cette renégociation du contrat chinois, comme on l'appelle?
D'abord, bravo à l'IGF qui nous a amené à la situation où nous sommes aujourd'hui. Le courage d'une institution, mais surtout d'un individu, d'une personne, en la personne de Jules Alinguete, d'aller jusqu'au bout des dossiers. Le courage d'envoyer un message clair aux hommes politiques d'aujourd'hui pour leur dire les bêtises que les hommes politiques d'hier ont faites peuvent un jour être décousues. Et aujourd'hui également un message aux entreprises étrangères en leur disant les avantages que vous arrivez à avoir de manière frauduleuse, un jour, on peut toujours les stopper. De la même manière, un message à la GECAMINE, notre société qui nous a représentés vis-à-vis des entreprises chinoises, en l'occurrence SICOMINE. Lui dire, vous avez été défaillant. Ce que la GECAMINE a fait, c'est de la faiblesse, et les gens qui nous représentaient dans le cadre de la GECAMINE, dans ce cadre de partenariat, étaient complaisants. Et je crois que ce message à ces trois catégories de personnes sont très importants pour que plus personne ne recommence demain l'ensemble de ce comportement qui ont justement réussi à affaiblir la République. Deuxième chose, on parle de 400 kilomètres par an et on pense que les 7 milliards de dollars qui vont être libérés vont être libérés en 20 ans. Il existe une ingénierie financière que l'on appelle la titrisation. Ça sous-entend qu'en fait le chef de l'État, s'il le désire, très rapidement il peut mobiliser 6 milliards de dollars immédiatement sur les 7 milliards de dollars en titrisant. Qu'est-ce que ça change? Au lieu de faire 400 kilomètres par année, on peut faire les 5000 kilomètres en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent immédiatement et on a des grands opérateurs économiques dans le secteur des bâtiments. Les gens ne le savent pas assez, la Chine a des très très grandes sociétés capables de faire des travaux de manière intensive. Je parle de la Chine parce que cet argent est accordé dans le cadre de Exim Bank, c'est malheureusement uniquement les entreprises chinoises qui seront exécutantes de ces travaux. Mais pour faire fonctionner les Chinois correctement, il faut avoir des bureaux de contrôle, soit japonais, soit allemands. Allemands parce que les Angolais les ont utilisés et on a la qualité des ouvrages qu'il y a en Angola. Les Japonais parce que, en général, les Chinois sont très hostiles aux Japonais et les Japonais sont très sérieux. Si vous désirez avoir un Chinois qui fait du travail comme il faut, mettez-lui un Japonais pour contrôler. Mais pour que nous ayons la capacité de faire ce travail de manière intensive, il nous faut un plan d'aménagement. Qu'on sache quelle route on va faire, elle va entraîner quel avantage économique. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, les investissements dans les infrastructures ne doivent pas être des investissements pour les infrastructures, ça doit être des investissements pour l'économie congolaise. À partir du moment où on décide de mettre cet argent dans les infrastructures de mobilité, on doit être en mesure de mettre en place des infrastructures de production d'énergie, on doit être en mesure de mettre en place des zones économiques spéciales capables de pouvoir alimenter ces routes avec de l'économie. Et je pense que c'est en ayant une réflexion globale et en innovant dans la mobilisation de l'argent, parce que 7 milliards de dollars sur 20 ans, ça ne veut absolument rien dire, plusieurs choses peuvent se passer entre temps, et le président n'a même pas le contrôle de ce qui va se passer après son mandat. Par contre, 7 milliards de dollars mobilisés dans les 3 années qui viennent en termes de dépenses et d'exécution des travaux, ça peut être une transformation très intensive au niveau de notre économie.
Alors, il y a déjà un plan à le Kitenge. Je prendrai l'intérieur du pays. Le projet programmé a pris en compte l'axe Mbujimayi Mweneditu, Kanyama, Kalemi, Luena, Nguba. Il y a aussi un autre axe qui est concerné, c'est Mbujimayi Kabinda. Kindu, Bukavu, Goma. Et puis on a une autre route hein, retenue dans le projet, c'est celle d'Akulado, le Grand Équateur. Est-ce que pensez-vous que c'est avantageux pour l'économie et le développement hein, de l'économie congolaise?
Kéline Kouté, je vais vous dire, et à vous et à la communauté nationale, ce que j'ai toujours dit. On ne peut pas vivre par hasard. Un pays ne peut pas vivre par hasard. Nous devons avoir un plan stratégique de développement qui est clair. Faire des routes, c'est bien. Les routes sans énergie, ça n'apporte absolument rien. Derrière, s'il n'y a aucune organisation de production agricole et de la transformation, ça ne sert absolument à rien. On doit avoir un plan stratégique articulé qui détermine que quand on a une route entre Matadi et Kinshasa, ce n'est pas une route pour l'importation, c'est une route pour l'exportation. La route elle-même n'est pas une condition sine qua non pour le développement. Ce qui donne une condition sine qua non, c'est la complémentarité des autres axes. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a que les routes et sans énergie, s'il n'a pas de route, il n'a pas d'énergie et il n'a pas de production. Aujourd'hui, la plus grande bataille que nous avons, c'est la transformation de nos villages en véritable centre de production. Et donc, la réflexion doit être menée de manière consistante et tout à fait pertinente. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, 7 milliards de dollars dépensés en 20 ans, ça ne vaut vraiment pas du tout la peine. Par contre, si on dépensait 6 milliards et demi en 3 ans, la transformation sera intensive. Et pour ça, ça ne doit pas être un plan isolé d'infrastructure routière ou de mobilité. Ça doit être un plan intégré. Quand on fait les routes, on doit être en mesure de faire les chemins de fer. On doit être en mesure de faire l'électrification. On doit être en mesure de faire la production. On doit être en mesure de faire l'industrialisation. Il est important, et je le dis encore aujourd'hui, l'État doit se doter d'un plan stratégique de développement. Nous n'en avons pas un et c'est un handicap majeur. Vous savez, lorsque vous avez l'argent et vous ne savez pas exactement ce qu'il faut en faire, vous commencez à improviser, vous commencez à inventer des routes que vous allez être en mesure de financer, même si elles ne correspondent pas en réalité à une voie logique d'optimisation de vos ressources et pour être en mesure de faire en sorte que chaque dollar que vous dépensez aujourd'hui en produise 10.
Lems Kamonia, vous êtes analyste économique. Qu'est-ce que vous pensez de la signature de ce contrat négocié entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises?
Oui, merci Kelly pour la parole. Je tiens aussi à saluer d'abord mes co-débatteurs, l'honorable Georges Bokundu, avec qui j'ai travaillé, ainsi que Al Kitenge, avec qui on est toujours en contact. Je pense que pour comprendre ces contrats et voir les avantages qui ont été tirés à la suite de l'avenant qui, le cinquième avenant qui vient d'être signé, il faut rentrer dans les contextes de départ. Dans les contextes de départ, il avait été prévu de financer pour 3 milliards des infrastructures qui étaient diversifiées entre les 3500 kilomètres de routes à construire, des kilomètres de chemins de fer à construire, 31 hôpitaux de 150 lits, y compris aussi 145 centres de santé, donc à raison d'un centre de santé par territoire. 15 ans après, je pense qu'on n'a pas été en mesure de consommer les 3 milliards. On n'a pu consommer que 822 millions et que près de 2,8 milliards n'étaient pas consommés. Il faut aussi savoir qu'au moment où ce contrat avait été signé en 2008, les mécanismes qui étaient prévus pour son remboursement étaient les bénéfices générés par les projets miniers Sicomine. Sicomine, la société dans laquelle la Gécamine a 32% et la partie chinoise a 68%. Et aussi, un élément important, c'est que par rapport à ces contrats, ceux qui doivent construire ces infrastructures sont connus. Il s'agit de deux entreprises chinoises, à savoir la Sinohydro et CREC. C'est-à-dire, ce sont ces deux entreprises qui sont censées construire ces différentes infrastructures. Maintenant, aujourd'hui, 15 ans après, Sicomine, qui était un projet en son temps, Sicomine aujourd'hui est en phase de production. C'est-à-dire, les revenus, les bénéfices qu'on avait actualisés en son temps parce qu'ils n'étaient pas encore générés, aujourd'hui, ils sont générés année par année. Ce qui fait qu'en réalité, on ne fait plus d'avance au gouvernement congolais pour construire ces infrastructures. On suppose que nous avons un véhicule qui est là, qui génère de l'argent, et cet argent doit servir au financement. Et quand moi je regarde ces changements de cap au point de vue financier, Passer de 3 milliards à 7 milliards pour les infrastructures, c'est un effort qu'il faut saluer, mais peut-être qu'il n'arrive pas réellement aux attentes qu'on pouvait avoir en termes de projet. Mais c'est déjà une avancée majeure parce que on a accru de 4 milliards par rapport au montant qui devrait être alloué au financement des infrastructures.
Alors, vous parlez des attentes en termes de projets. Lesquelles, par exemple, l'EMSCA-Monia?
Oui, quand je dis attentes en termes de projets, ici, ce sont les projets routiers qui devraient être construits, ce sont les hôpitaux qui devraient être construits et les centres de santé. C'est ce qui fait que on n'a pas su suffisamment avancer. Et si on n'a pas su suffisamment avancer, je le répète, les contrats ne prévoyaient que deux sociétés, deux grandes sociétés chinoises qui étaient là, censées construire ces infrastructures. C'est pourquoi on parlait d'un accord de troc. Parce que ceux qui doivent construire les infrastructures sont connus. Même aujourd'hui, je pense que les problèmes restent encore en entier. Lorsque vous dites, on doit décaisser chaque année 324 millions de dollars, avec une particularité pour cette année de décaisser 624 millions de dollars, avons-nous la certitude que ces deux entreprises ont la capacité de consommer cet argent dans les 9 mois qui restent, notamment 624 millions de dollars? Et si nous posons la question, pourquoi pendant les 15 premières années, ils n'ont pas su suffisamment avancer dans ces travaux d'infrastructure? Ils avancent une raison qu'on peut considérer comme un prétexte. Ils disent qu'il n'y a pas d'études, ce qui est vrai. On ne va pas se mettre à construire une route, à construire un grand centre de santé sans qu'il y ait des études préalables. C'est là que je pense que le gouvernement doit être cette fois-ci plus réaliste. La première des choses, c'est recruter des sociétés expérimentées, occidentales et pourquoi pas asiatiques, qui sont spécialisées dans les travaux d'infrastructure.
Alors, Marie Kitenga fait allusion aux Japonais et aux Allemands.
Voilà, les tronçons routiers qui ont été identifiés, parce que les frais des études et des suivis, ces frais sont contenus dans les mêmes financements. Les frais d'études qui ont été identifiés, les tronçons routiers qui ont été identifiés, il faut qu'il y ait des études de faisabilité. Et ces études doivent nous montrer quel est le délai de réalisation de ces infrastructures et combien ça va coûter. Et que les mêmes entreprises qui vont faire ces études se mettent à faire les suivis et les contrôles des travaux. Si nous disons, mettons en place un mécanisme interne, je vous assure, les Chinois vont encore jouer à la prolongation. De la même manière que les 15 premières années sont passées, on verra que les 15 autres vont passer, il n'y aura pas grand-chose. Je crois que c'est là que nous devons être efficaces. La deuxième des choses, c'est évaluer la capacité de ces deux entreprises. Disposent-elles des équipements et du matériel capable de répondre ou d'attaquer simultanément autant de chantiers pour être à hauteur de consommer ces montants? Sinon, aujourd'hui, on va acclamer qu'il y aura 600 millions, 300 millions, mais quelle est la capacité d'absorber ces montants sur terrain? Quel mécanisme nous mettons sur terrain pour arriver à ces résultats? Ça, ce sont là les questions pertinentes que nous devons nous poser et réfléchir autrement, ne pas songer à nos structures locales, songer à des entreprises qui peuvent avoir une capacité à la fois technique et financière à la hauteur des sociétés chinoises là-bas, pour qu'on leur oppose, qu'on se dise « Non, nous rêvons. Moi, j'ai travaillé longtemps dans ces domaines d'infrastructures. Consommer 600 millions en 9 mois, c'est pas donné dans un pays comme le nôtre, surtout si vous n'avez pas des études. À moins qu'on dise, si dans l'avenant qui a été signalé, qui a été signé, qu'on dise qu'on diversifie, il n'y a pas que des entreprises chinoises qui peuvent construire, nous pouvons diversifier les partenaires qui peuvent construire ces routes-là. Et même alors, il faut qu'il y ait des études. Et même alors, il faut qu'on mette en place des mécanismes clairs de décaissement sans lesquels on ne peut pas arriver à atteindre ça. On aura beau signer, mais on va se rendre compte que d'année après année, on va revenir au même problème. Une des révélations faites par l'IGF, dont je salue aussi le travail qui a été fait en partie, c'est qu'ils se disent qu'il y a une surfacturation des premiers projets d'infrastructure qui ont été réalisés. Mais comment éviter ça si vous n'avez pas des firmes qui ont la même capacité que les firmes chinoises pour dénoncer que cette route ici, vous devez la construire à tel coût? À ce moment-là, au moins, on a un tableau de bord. On s'est dit que cette année, voici les tronçons qui peuvent être construits et voilà combien ils vont coûter pour qu'on se dise qu'on arrive à ces montants. Autrement, nous risquons de voir qu'il n'y aura pas grand-chose. Maintenant, pour terminer, excusez-moi, allez-y. Je pense que vous avez évoqué les avantages.
Oui.
Le seul avantage majeur que moi je vois ici,
c'est d'abord du fait que on a accru la part de l'État congolais dans les projets hydroélectriques de Busanga, parce que l'État congolais avait 25%, l'État congolais passe à 40%. 15%, ça c'est notable. Mais dans ces communes, rien n'a changé. La Gécamine est restée à 32% et les Chinois à 68%. Néanmoins, quelque chose de positif a été fait, c'est quoi? C'est que la Gécamine bénéficie aujourd'hui d'avoir 1,2% du chiffre d'affaires comme royalties. C'est un montant qui sera quand même important, qui peut soulager la trésorerie de la Gécamine. Et aussi, on accorde la Gécamine proportionnellement à son pourcentage dans cette société, les 32%. La Gécamine a les droits aussi de commercialiser les 32% de la production annuelle de ces communes. Ça, ce sont là les avantages qu'il y a.
Au plus, au même... en plus. Ça, c'est avantageux pour la RDC.
Non, ce n'est pas que ça devient son argent. C'est juste commercialisé, mais l'argent rentre dans les comptes de la société. À ce moment-là, qu'on ne dise pas que les Chinois qui vendent, ils ont sous-estimé la valeur marchande des produits qui proviennent d'une entreprise conjointe. Au moins, chaque partie contrôle. Vous vendez 68%, vous ramenez dans la JBC de la société. Moi aussi, je vends 32%, je ramène dans la JBC de la société. Mais ce que la Gécamine gagne, ce sont ses dividendes. 32% sur les bénéfices. Et en plus, la Gécamine va gagner 1,2% en termes de royalties. Ça, on peut considérer comme un avantage, quand bien même on n'a pas équilibré les pourcentages de participation dans la société commune qui a été créée à cet effet.
Alors, on va donner aussi la parole aux auditeurs qui sont nombreux à vouloir donner leur point de vue sur le thème que nous abordons ce soir, dans le dialogue entre Congolais. On va se rendre à Bukavu pour écouter Aksanti Shengamungu Olivier.
Aksanti Shengamungu Olivier depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. La signature de ce contrat est négociée entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises semble être une avancée positive pour le pays. En fait, l'augmentation de l'investissement dans l'infrastructure et la construction de 5000 km de routes sont des éléments essentiels pour le développement économique et social de la RDC. Il est tout de même important de rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour assurer que les bénéfices de l'exploitation minière profitent également au peuple congolais. Il est encourageant aussi de voir que les autorités congolaises ont pu renégocier les termes de l'accord pour garantir un partenariat gagnant-gagnant. Partenariat beaucoup plus équitable et où le Congolais lambda va désormais retrouver sa part. Ce partenariat renforce aussi la souveraineté du pays et ses ressources naturelles.
Alors Jacques Mokoundou, que pensez-vous du point de vue d'Aksanti qui nous a appelé depuis Bukavu?
Ça c'est un souhait que ses compatriotes ont manifesté. C'est vraiment un souhait et effectivement, il fallait arriver à cet arrangement, mais la même question va se poser. Est-ce que c'est suffisant? Regardez, dans les 15 ans passés, ou 10 ans, ou 8 ans, les Chinois ont pu investir 2,8 milliards, presque près de 80% de ce qui les intéressait, dont la partie minière. Mais la partie infrastructure, c'est 800 millions quelque chose, c'est-à-dire que cela ne les intéressait pas. Et si nous, on ne s'intéresse pas à notre parti, nous risquerons de faire la même chose. C'est comme mon combattant a dit là tout à l'heure. C'est pas normal. Si les Chinois peuvent gagner 500 millions, 600, 800, il faut savoir ce que les Chinois gagnent par an. Si on va nous donner, nous, 324 millions par an, et ils gagnent combien? Parce que ça aussi, la transparence, c'est pour équilibrer un peu les deux parties. Au jour d'aujourd'hui, en réalité, s'il faut examiner bien, il n'y a plus de dette sur l'investissement placé par les Chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les produits de cette JV qui fait que le Congo doit avoir les 324 millions, et on ne sait pas ce que les Chinois vont avoir pour nous servir, nous tous. Donc on doit faire au moins une certaine égalité. Les mécanismes de décaissement qui n'étaient pas riches, qui n'étaient pas importants dans les 15 premières années, risquent de revenir. Et finalement, quand on donne les monopoles aussi aux Chinois, les deux compagnies, c'est depuis une question de la transparence. Eux-mêmes gèrent les projets. Eux-mêmes vont commencer à décaisser. Tout est fait en chinois. J'espère que cette fois-ci, dans l'avenant, on a changé les choses. Parce que quand on fait tout en chinois, on ne saura pas réellement ce qui est écrit. Et ce sont leurs propres compagnies qui doivent exécuter ce terrain. Non, je pense qu'il faut créer le système concurrentiel cette fois-ci. Si les deux compagnies peuvent rester, mais elles doivent travailler à côté des autres compagnies. qui peuvent être congolaises si on en a, occidentales ou africaines. De sorte que nous puissions avoir une certaine vérité de certaines réalisations faites par d'autres compagnies. Donc moi je pense que le souhait de tout Congolais aujourd'hui, c'est de voir cette grande mine profiter aussi aux Congolais, mais ce n'est pas seulement celle-là. Mais l'avenir, 15 ans ou 20 ans, pour 7 milliards, bon, on ne sait pas, les Chinois ont gagné peut-être 10 milliards pour 10 ans, et nous on va gagner 7 milliards pour 20 ans, bon, c'est un problème d'équilibrage, c'est un problème de négociation. Au moins on est arrivé à ce niveau-là. Mais nous voulons voir clair, cette année, 600 millions qu'on attend, ça va être décaissé comment, qui vont exécuter, est-ce que ces compagnies-là, parce qu'on est déjà au mois de mars, il nous reste quelques mois pour arriver à la fin de l'année. Donc, le souhait de tout Congolais, ça serait réellement voir si Comines produit des intérêts pour les deux parties, pas pour une seule partie. Et ça, ce n'est pas un don que les Chinois vont commencer à nous céder. Parce qu'ils ont déjà récupéré la mise dans cette mine-là. Aujourd'hui, dans les barrages de Boussanga, on a 40%. Mais pourquoi hier, on était à 7% ou 8% de la Gécamine? Pourquoi c'était 7 ou 8%? Et les manques à gagner, on fait commencer. Ça entre toujours dans le cadre des 7 milliards où il y a d'autres compensations qu'on pourra avoir après. Voilà un peu, je voudrais m'arrêter là.
Alors, il y a beaucoup de questions destinées aux autorités congolaises. Malheureusement, tous les efforts que nous avons fournis pour les avoir dans ces débats sont restés vains. Peut-être que prochainement, elles accepteront, les autorités congolaises, de venir participer à cette émission sur ce contrat renégocié entre la RDC et le regroupement des entreprises chinoises. Après Bukavu, on va se rendre à Mbanzangungu, je pense. Non, on va se rendre où, monsieur? À Beni, voilà. On va se rendre à Beni pour écouter cet autre auditeur.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Nous félicitons l'implication du président de la République pour un partenariat win-win, et surtout grâce au travail abattu par les inspecteurs généraux des finances. Vu l'urgence pour notre pays d'être doté d'un réseau routier important pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, nous suggérons la mise en œuvre d'une équipe qui fera un contrôle non seulement sérieux, mais aussi rigoureux, et surtout une évaluation afin que les routes construites dans le cadre de ces contrats soient de bonne qualité et que les travaux s'exécutent dans les délais convenus. Donc nous attendons la matérialisation des clauses de ces contrats, surtout que les infrastructures des transports constituent les clés du développement d'une nation.
Alors, Al Kitenge, tout à l'heure, vous estimez que les routes, il n'y a pas que les routes qui peuvent constituer, qui peuvent développer l'économie d'une nation. Cet auditeur, lui, il estime, hein, c'est son avis à lui, il pense que c'est très important d'avoir des bonnes routes pour développer le pays.
Oui, je ne crois pas que les routes seules suffisent. Et un pays sérieux doit savoir qu'il doit avoir des chemins de fer, des autoroutes et des routes nationales, devrait avoir des ports et des aéroports, et tout ça de manière intelligente. On appelle ça un plan d'aménagement, pour que nous soyons en mesure d'avoir une mobilité qui répond à des besoins de l'économie. J'insiste parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui gagne $1 million à la loterie. S'il n'a pas un plan, dans quelques mois, il sera aussi pauvre qu'il l'était avant. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire, en ce moment particulier, il est important que l'État se pose la question de savoir quel est le chemin critique que je voudrais emprunter pour aller dans mon développement. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 324 milliards, millions de dollars par année, c'est très peu d'argent. Il est important que le chef de l'État et les structures de l'État considèrent ce flux financier comme un levier pour être en mesure de lever rapidement 5-6 milliards de dollars à dépenser intensivement. Et là, ça revient à la question que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir deux sociétés, on peut avoir plusieurs sociétés, y compris des sociétés chinoises. Et j'insiste encore une fois, chaque fois que l'on a abusé de nous en termes de surfacturation, certains de nos frères étaient complices. Et la seule façon de régler cette question, c'est d'avoir des bureaux d'études de renommée internationale qui ne prendraient pas de risques sur leur propre réputation. Et je voudrais terminer en disant, ce que nous avons fait avec Sicomine, il est important de le faire avec toutes les autres mines où la GECAMINE est en partenariat avec des tiers. C'est la seule façon pour nous de pouvoir éviter que ce que nous avons connu avec Sicomine se retrouve avec les autres sociétés. Et encore une fois, la responsabilité est bien sûr du côté des partenaires avec lesquels nous travaillons, mais la grande partie est du côté congolais. On ne peut pas abuser de nous si nous ne sommes pas corruptibles. Toute la question, et tout le monde le sait, très malheureusement, que c'est une question de concussion. Et j'insiste encore une fois, des travaux de construction, les sociétés chinoises en ont une très grande capacité, vous n'avez qu'à regarder à quelle vitesse ils construisent chez eux et à quelle vitesse ils construisent en Europe. Donc on peut avoir d'autres sociétés que les petites sociétés chinoises qui sont ici, qui étaient venues ici pour une ambition faible. Et donc encore une fois, si le chef de l'État décide de multiplier par 7, par 8 la capacité de production des routes, il s'agira simplement de faire des lots et de les donner à des entreprises de taille. Et ça, c'est un autre narratif, c'est une autre approche, c'est une autre stratégie.
On va rentrer à Bukavu pour prendre ce dernier auditeur qui appelle.
Je suis Eric Banyanga, je vous appelle à partir de la ville de Bujumbura, au Burundi. Personnellement, je trouve que ce nouveau contrat est aussi moins rassurant et significatif avec 5000 km de route en échange avec ce que gagnerait les GEC au vu de besoins en infrastructures routières au pays. Tout en étant pessimiste sur cette nouvelle configuration du contrat sino-congolais, qui du reste est insignifiant au vu des kilomètres à faire, je reste aussi pessimiste quant à la non-exécution de ce contrat, car parfois, plusieurs chantiers ne débutent pas dans de telles conventions, et lorsque nombreux débutent, ils sont soit inachevés, soit faits avec beaucoup de légèreté au Congo. C'est ainsi que je recommanderais que les 5000 km de routes soient bien identifiés et que cela concerne uniquement les routes nationales du pays et qu'un mécanisme de suivi soit mis en place. Ce comité de suivi devra être installé dans chaque axe et pourra être constitué par des élus, notamment un député national, un sénateur, le gouverneur des provinces et un membre de la société civile. Cela dans chaque province. Et tous ces comités provinciaux seront sous la coordination du président de la République et placés sous la supervision de l'inspection générale des finances. Au niveau minier, il faudrait avoir des compagnies minières qui utilisent la bonne main-d'œuvre nationale dans tout le processus d'exploitation et de transformation locale de ces minerais. C'est avec ceci que les Congolais peuvent espérer retrouver une différence avec les anciens contrats, car faire le contraire serait un contrat chinois bis, comme fut celui de 2008, qui n'a jamais prouvé le win-win et qui aurait profité à ceux qui l'auraient négocié qu'à la République tout entière.
Lemse Kamwanya.
Oui, j'ai bien suivi l'intervention de cet auditeur qui nous appelle de Bukavu.
De Bujumbura plutôt, il est au Burundi.
Ah, de Bujumbura, oui, ok. Je pense que il y a quelque chose que je vais préciser ici. Hein. Nous ne devons pas considérer que les Chinois viennent prendre les minerais et en échange, ils vont nous donner 7 milliards. Ça, c'est une conception erronée. Parce que les 7 milliards, c'est un préfinancement sur les dividendes que doit gagner la GECAMINE dans la société Sicomine. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que le contexte de ce contrat a changé. En 2008, quand on avait signé, la Sicomine n'était pas encore en production. Ses dividendes n'existaient pas. Donc, pour financer ces infrastructures, on a dit la GECAMINE devrait gagner autant. Ce que la GECAMINE devrait gagner comme dividende lorsque c'était devrait fonctionner, la partie chinoise nous avançait cet argent pour financer les infrastructures. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en réalité avec une société qui fonctionne, qui produit déjà. Et dans ce fonctionnement, la partie la plus importante, c'est comment on arrive à gérer la Sicomine et comment on arrive à garantir les intérêts de l'État congolais. Parce que dans la Sicomine, la GECAMINE a 32%. C'est vrai, la Sécomine a été financée suite à un investissement consenti par Exim Bank, 2,8 milliards, qui est en train d'être remboursé. Mais dans les phases actuelles, qu'est-ce qui reste comme dividende à la Gécamines? Parce qu'on peut mettre de côté ces infrastructures, mais on doit évaluer pour savoir quel gagne l'État congolais à travers la Gécamines dans ses partenariats. Et ça, c'est le plus important. Et c'est là que nous pouvons maintenant changer la donne en disant, ok, si nous disons que les 324 ou les 624 que cette année, ce n'est qu'un préfinancement sur les dividendes de la Gécamines. Aujourd'hui, les modèles économiques, quand on regarde les cours actuels des métaux sur les marchés internationaux, quel sera le modèle économique, combien la Gécamines devra gagner dans les 15 prochaines années au niveau de la Sécomines, et regarder ces montants par rapport à ce que nous déversons dans les infrastructures. Et que gagnerait la Gécamines 15 ans après? Parce que si on voit que les kilomètres de route, comme si on a dit, on a donné un gisement minier aux Chinois, en retour ils nous donnent ça, ça nous faussons les analyses. Et c'est comme ça que beaucoup, la plupart des gens, ils s'imaginent que c'est un accord de troc où on a donné les minerais aux Chinois, ils gagnent, nous on ne gagne pas. Non, l'État congolais gagne 32% dans les projets. Et les 324 millions, c'est une part de nos bénéfices que nous allons gagner dans ces projets qu'on nous avance pour construire des infrastructures comme nous sommes dans les besoins. On ne peut pas attendre plus tard. C'est ça, toute la problématique est là. Mm-hmm. Même quand M. Al-Kitenge dit, voilà, il faut que ces montants soient mobilisés aujourd'hui, il faut procéder à la titrisation. Non, c'est un mécanisme qui ne peut pas fonctionner aujourd'hui. C'est plutôt eux qui avaient titrisé en son temps les 14 milliards pour calculer la valeur actuelle. Si aujourd'hui ces montants, on les génère, on s'est dit, chaque année, la Gécamines a la capacité d'avoir 200 millions, 100 millions, considérons ces montants-là comme un montant qui peut être utilisé comme un levier pour lever d'autres financements. À ce moment-là, nous sortons du contrat chinois. Nous leur disons, monsieur, on avait besoin de vous il y avait 15 ans. Quand on générait, maintenant nous générons quelque chose, nous avons notre argent en liquide chaque année. On prend cet argent, nous pouvons lever les financements et signer des contrats avec les autres. Mais on n'en est pas là, on reste dans les périmètres de ces contrats. Et je crois que c'est là que nous devons ouvrir l'œil, regarder, d'une part, comment on récupère, on protège nos droits au sein de la Sécomines, et d'autre part, quelle vitesse nous devons imprimer dans l'exécution des infrastructures. Et pour moi, il n'est pas question qu'on mélange toutes ces structures politiques. Non, le Parlement a son travail, le Sénat a son travail. Laissez l'exécutif faire ce travail, mettez en place des mécanismes modernes de gestion et de supervision des contrats, on va aboutir à des résultats. On n'a pas besoin à réfléchir ailleurs. Monsieur Al l'a dit, pourquoi en Chine, pourquoi en Europe ça avance plus vite? Vous avez des structures souples, vous avez des sociétés qui sont payées, qui font les suivis, et les montants se retrouvent dans ces contrats. Évitons de mélanger les potes, ça va être des comités, des réunions et des réunions dans un domaine qui est technique. Ils ne peuvent pas évaluer avec toute la technicité, ce qu'il y a dans les cadres, par exemple, des projets routiers, des travaux de génie civil, des ouvrages d'art qu'il faut construire.
Merci, Lems Kamanya. Nous sommes à la fin de notre émission. Georges Bokundou, vous allez devoir conclure. Il y a Prosper Binoumbi qui insiste sur la qualité des infrastructures que les Chinois vont construire en RDC. Il se demande pourquoi chez nous c'est toujours, ça se fait toujours de façon à peu près, alors qu'ailleurs ils font du très bon travail. Et puis, qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on sente que la RDC vraiment est aussi gagnante dans ce contrat renégocié. Ce sera votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Je pense que ce que la RDC doit faire, il ne faut pas compter sur la bonne foi des Chinois. Il faut être vraiment parti au contrat. Et si les Chinois font de bonnes infrastructures ailleurs, c'est parce que là-bas, il y a un contrôle. Nous avons des services de contrôle, de suivi des infrastructures, des structures routières, mais que ces services-là soient à la hauteur de leur mission dans les pays ici. J'ai conclu en disant, les mines, ça s'épuise. J'espère que dans les 20 ans, nous aurons encore ces jugements-là, des Sécomines. Espérons aussi que les Chinois pourront gagner et nous pourrons réellement gagner. Si on n'y met pas un contrôle, on risque de revoir presque les mêmes 15 ans de la fois passée. 800 millions, c'était pour les 3 milliards. Nous allons vers, je crois, 7 milliards. Espérons que dans 2, 3, 4 ans, nous pourrons même atteindre 1 milliard. les rythmes de consommation de chez nous risquent de nous donner un peu la crainte d'espérer un bon résultat par rapport à ce nouveau contrat. Donc il ne faut pas compter sur la bonne foi des Chinois, il faut compter sur notre propre dynamique, notre propre efficacité pour imposer l'exécution claire de cet avenant, de ce contrat. On ne va pas laisser aux Chinois d'exécuter, c'est-à-dire que c'est les Chinois qui vendent, qui commercialisent, qui vous décaissent l'argent. Nous devons, dans ces partenariats, être capables de commercialiser ensemble, de décaisser ensemble, de financer les infrastructures ensemble. C'est à ce moment-là qu'on pourrait compter sur quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec l'EMS. Il dit que laissez le Parlement faire son travail. Le gouvernement doit faire son travail. Regardez un peu le nombre de ministres qui ont signé cet avenant. J'espère qu'ils ont pris conscience de la signature. Du côté de la RDC, ce sont des ministres qui signent. De l'autre côté, ce sont des Chinois qui ne sont pas membres du gouvernement. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu l'avenant en question. Donc, nous avons engagé les pays. Et lorsqu'on engage les pays, tout en faisant qu'il n'y a plus de convention dans notre contrat minier, dans notre code minier. C'est un engagement vraiment politique, mais qu'il faut vraiment contrôler. Parce qu'on a engagé autant de membres du gouvernement, il ne faudrait pas qu'encore demain, ça soit quelque chose où on commence à se lamenter nous-mêmes. Donc voilà un peu, je voudrais m'arrêter là et je félicite le chef de l'État qui a coordonné ces négociations.
Merci. Merci. Alkitenge, votre conclusion.
Ma conclusion est encore la même. Le chef de l'État a des grandes ambitions. Il a là les moyens capables d'être mobilisés plus vite que 7 milliards en 20 ans, en titrisant, en utilisant le flux financier futur pour être en mesure de lever de l'argent aujourd'hui. Ça vous donne un avantage majeur, c'est qu'on se détache du contrôle chinois. À partir du moment où on a du cash, on a la capacité de contrôler les passations de marché, des projets que l'on désire financer, mais également la qualité des ouvrages. 5000 km en 20 ans, ce n'est absolument rien. Mais les mêmes 5000 km construits en 3, 4 ans de manière intensive, ça va transformer de manière très sérieuse notre économie. Et donc j'en appelle à l'ingénierie et à l'intelligence du gouvernement à pouvoir envisager d'utiliser le flux financier futur pour lever de l'argent dans les plus brefs délais et intensément financer les activités économiques. Vous savez, la partie de l'Est de notre pays qui est en guerre aujourd'hui, elle est en guerre de pauvreté. Et si nous y déployons des activités intensives de construction des bâtiments, de travaux des BTP, ça pourra engendrer ce que moi j'appelle la guerre économique pour se substituer à l'économie de la guerre qui aujourd'hui nous dérange. Et donc, de mon point de vue, il reste important d'utiliser ce flux financier que l'on a pour l'instant dans une ingénierie intelligente pour être en mesure de lever de l'argent, beaucoup plus d'argent en une période beaucoup plus courte et avoir des activités intensives en utilisant des grandes sociétés, aussi bien chinoises qu'européennes.
Merci à le Kitchenge. L'EMSO Kamwanya.
Oui, moi je pense que d'abord, il faut encourager et féliciter le travail qui a été réalisé par l'IGF, le gouvernement et tous les leaderships du chef de l'État. Je crois que le souci est là. Maintenant, ce qui est, on a signé un avenant, le plus fort doit commencer aujourd'hui. Le plus fort, c'est un, qu'on vérifie nos intérêts au sein de la SICOMINE, parce que c'est ça même la base de tout ça. Sans la SICOMINE et sans ces contrats miniers, on ne peut pas parler de ces infrastructures. De deux, qu'on change la mécanique et les modalités d'exécution et de suivi des travaux qui sont exécutés si réellement nous voulons voir un changement dans ce qui est en train de se faire. Je crois que beaucoup d'éléments, nous les avons évoqués tout au long de cette émission. Si on ne change pas la manière dont les suivis de la mise en œuvre de ces projets se réalisent, la vitesse que nous voulons imprimer à ça, les 15 ans vont se passer, les 5 ans vont se passer. Déjà, on va arriver à la fin de cette année, on va évaluer. Vous verrez que même dans les 600 millions, même pour consommer 100 millions, ça sera difficile. Donc, il sera important que les gouvernements mettent en place des mécanismes innovateurs dans le cadre de la supervision, de l'exécution et du suivi de ces travaux.
Merci, M.S. Kamwanya de Rogon Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Donna Madimba, Paul Diassinoa, Clément Chimanga, Donatoron Fonani. Présentation et coordination Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.